Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la 10e émission de radio d'Actu Droit. Téléchargement illégal, spéculation sur le bitcoin, copie d'œuvres d'art, cookies intrusifs. Est-ce qu'Internet est un lieu de non-droit ? Pour répondre à cette question, vous pourrez écouter des sujets variés sur la propriété intellectuelle, avec le droit à l'oubli, les crypto-monnaies, le RGPD, Adopi et les œuvres numériques. Vous n'avez rien compris ? Moi non plus. Nos invités vont vous expliquer ça avec des reportages et des chroniques. Accueillons nos deux spécialistes, Eva, spécialiste informatique, développeuse web, et Elsa, spécialiste juridique, avocate, qui est là pour répondre aux questions de Médina sur le droit à l'oubli.
Donc la première question que j'aimerais poser, c'est à notre spécialiste juridique, donc notre avocate. Comment les personnes concernées peuvent-elles exercer leur droit de rectification et le droit à l'effacement ?
Les personnes physiques disposent d'un droit de rectification de leurs données. Si les données personnelles sont inexactes ou incomplètes, la personne concernée peut obtenir que ces dernières soient complétées ou modifiées en fournissant une déclaration complémentaire. Elle doit alors recevoir une réponse dans les meilleurs délais. Les personnes physiques peuvent demander leur droit à l'effacement, leur droit à l'oubli donc, dans les meilleurs délais pour leurs données. Ce, dans plusieurs hypothèses. Dès lors que les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Si la personne retire son consentement sur lequel est fondé le traitement, ou si elle s'oppose au traitement, ou si le traitement est illicite.
Je vois. Et la deuxième question que j'aurais à poser, c'est à notre spécialiste informatique. Donc, comment supprimer mes données personnelles sur Google ?
Comme Google n'est pas le propriétaire des sites en question, il ne peut pas supprimer ces informations du web. Même si Google supprime une information de ses résultats de recherche, celle-ci existera encore et pourra être trouvée par d'autres moteurs de recherche ou par des personnes allant directement à l'URL.
Je vois. On parle de données. Mais quels droits ont les clients sur leurs données, Madame l'avocate ?
Les clients ont plusieurs droits sur leurs données. Je vais vous en citer plusieurs et en développer deux. Tout d'abord, il y a le droit de rectification et le droit à l'effacement qu'on a vu précédemment. Il y a aussi le droit à la limitation du traitement, le droit à la portabilité des données, le droit d'opposition, le droit d'accès, c'est-à-dire que les personnes concernées peuvent soumettre une demande d'accès, obligeant les organisations à leur fournir une copie de toutes les données qu'ils détiennent à leur sujet. Les organisations ont un mois pour fournir ces informations. Et il y a enfin le droit d'être informé, c'est-à-dire que les organisations doivent informer les individus concernant les données qui sont collectées, comment elles sont utilisées, combien de temps sont-elles conservées et si elles sont ou non partagées avec tierces personnes. Ces informations doivent être communiquées de manière très claire.
Je vois, en tout cas c'est très clair et ça fait beaucoup. La deuxième question que j'aurais à poser à notre développeuse web, c'est comment faire disparaître mon nom d'Internet ?
Si vous voulez formellement enlever votre nom, vous devez suivre la procédure de réclamation pour atteinte à la vie privée de Google.
Je vois. Donc comment concrètement j'utilise mon droit à l'oubli cette fois-ci ?
Pour exercer son droit à l'oubli, la personne concernée doit en faire la demande auprès du responsable du traitement, l'organisation qui traite ses données. Une fois saisie, le responsable du traitement doit traiter la demande dans les meilleurs délais. Si la personne concernée ne reçoit pas de nouvelles ou si elle essuie un refus, elle peut saisir la CNIL qui mènera une enquête. Il est toutefois aussi important de préciser que le droit à l'oubli s'exerce sous certaines conditions.
Merci Madame l'avocate. Et enfin, la dernière question que j'aurais à poser à notre développeuse web, c'est comment demander la suppression de ses données personnelles ?
Pour demander la suppression de ses données personnelles, vous devez justifier en quoi le contenu nuit à votre vie privée et à votre réputation. Puis, vous devez adresser un courrier ou un email au responsable du traitement des données de la société afin de demander l'effacement de vos données personnelles.
Ah, j'y vois un peu plus clair maintenant. Je ferai attention à ce que je vais poster sur les réseaux sociaux maintenant. This is an awesome feeling when... Bonjour Philippine Erlin. Vous êtes économiste spécialiste dans les crypto-monnaies. Pouvez-vous nous dire si aujourd'hui je peux payer en crypto-monnaie ?
Alors, si sur le plan juridique, une crypto-monnaie n'est pas une monnaie car elle ne dépend d'aucune institution et ne bénéficie d'aucun cours légal, vous pouvez tout de même les dépenser sur de nombreuses plateformes et magasins. En effet, payer en bitcoin n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. Vous pouvez utiliser PayPal pour payer en bitcoin, Ethereum ou encore Litecoin, qui sont différentes crypto-monnaies, ce qui permet de les utiliser en dehors du marché des crypto-monnaies et de pouvoir acheter des biens du quotidien avec. En plus de cela, de plus en plus de magasins physiques acceptent désormais les crypto-monnaies. Vous pouvez donc acheter de la nourriture et des boissons dans de nombreux bars et restaurants du monde entier. En plus de cela, vous pouvez également obtenir divers services comme réserver un hôtel, un billet d'avion, acheter un bien immobilier, commander une pizza, payer vos impôts et même partir dans l'espace avec Virgin Galactic grâce au Bitcoin. Cependant, si tous les magasins ne s'y sont pas encore mis, c'est parce que les délais entre le moment où le client paye en crypto-monnaie et le moment où le magasin reçoit l'argent est assez long, soit environ 2 jours. C'est-à-dire que si le commerçant vous laisse partir avant que la transaction soit confirmée, il court le risque de vendre à crédit. Ainsi, les magasins, pour sécuriser la transaction, peuvent vous demander de payer une somme afin que la transaction soit réalisée dans un délai raisonnable. Voici un exemple. Si vous voulez acheter un café à 3 euros avec vos bitcoins, vous devrez sûrement payer 3 euros additionnels pour que la transaction soit confirmée dans un délai raisonnable. Nous voyons donc s'amincir le rêve de pouvoir payer un café en bitcoin. Le plus simple reste encore de transférer l'argent gagné en crypto-monnaie, en euros ou en dollars sur votre carte bancaire, puis de payer avec celle-ci.
Merci Philippine Erlin. Nous allons maintenant laisser la parole à Antoine Diabolo, analyste fondamental pour la Société Générale. Monsieur, pouvez-vous nous éclairer sur la réaction des États par rapport à ces nouvelles monnaies?
Les autorités financières sont de plus en plus nombreuses à vouloir encadrer davantage les crypto-monnaies. Certains États ont choisi la voie de la répression. D'autres, après avoir redouté l'essor du Bitcoin et ses concurrents, envisageaient une régulation à même d'offrir un cadre plus transparent aux investisseurs. Les crypto-monnaies, avec le Bitcoin en tête, séduisent de plus en plus les particuliers attirés par les gains potentiels qu'elles peuvent générer. Ça reste des actifs très volatiles et les risques engendrés par cela ne sont pas négligeables. Dans ces conditions, la régulation fait débat. Dans un monde où la régulation financière a été renforcée depuis la crise de 2008, le sort actuel réservé aux crypto-monnaies apparaît, il est vrai, insolite et laxiste. De même, les États voient dans les crypto-monnaies une entaille à leur monopole. Ainsi, les bitcoins et autres Ethers peuvent représenter une alternative aux monnaies émises par les États. Dans cette optique, renforcer la régulation viserait à freiner l'essor de la concurrence des crypto-monnaies. Pour autant, une grande régulation est également présentée comme un moyen de mieux protéger les investisseurs contre les escroqueries et les piratages, voire offrir un cadre pour rendre les crypto-monnaies plus utiles et favoriser leur développement dans l'intérêt des États, des entreprises et des particuliers. Les crypto-monnaies n'ont pas de cours légal, elles ne sont pas régulées par les banques centrales. Les cours dépendent du jeu de l'offre et la demande, leur valeur est donc très fluctuante. Par exemple, en mai 2021, le Bitcoin a perdu 50% de sa valeur, sans parler des altcoins qui ont surperformé la baisse. On parle même de crack mai 2021. Au cours de l'année 2018, les appels et mesures en faveur d'une plus grande régulation ont été nombreux. Certains pays comme la Chine sont allés très loin en bloquant purement et simplement l'accès aux plateformes internationales d'échange de crypto-monnaies telles que Binance et Coinbase. Comme la Corée du Sud, on choisit de n'autoriser que les plateformes dont les clients utilisent des comptes bancaires déclarés. En Europe et aux États-Unis, aucune mesure de ce type a été mise en place. En revanche, les autorités ont multiplié les avertissements sur les risques présentés par les crypto-monnaies. Le président Emmanuel Macron a même été jusqu'à accuser les crypto-monnaies d'être des dérégulateurs du système financier.
Merci Antoine Diabolo. Et pour finir, nous allons parler de la criminalité autour des crypto-monnaies avec notre invité Gauthier Pichon, ancien membre de la brigade criminelle de la police nationale dans la branche de la cybercriminalité. Alors, d'après vos travaux, quelles sont les utilisations faites par les criminels de la crypto-monnaie?
Bonjour. Donc, les crypto-monnaies ne sont pas seulement utilisées lors d'achats légaux, mais elles sont également utilisées dans un but criminel. Je vais donc vous dire comment le Bitcoin est généralement utilisé par des criminels. Certains individus piratent les ordinateurs afin de générer des bitcoins à travers la technique du minage. Pour nos auditeurs qui ne savent pas, le minage consiste en la vérification, la sécurisation et l'enregistrement de blockchain par des individus qui mettent la puissance de calcul de leur ordinateur à contribution. Pour chaque blockchain résolu, les mineurs perçoivent une rémunération en bitcoin générée par le logiciel. Puis, ces bitcoins peuvent être utilisés pour effectuer des achats jugés illégaux, comme par exemple la vente de drogue, la vente d'armes, l'achat de pornographie infantile, etc. Les cryptos ont un potentiel criminogène important. Dans la majorité des pays, les criminels peuvent être tentés d'utiliser un outil appelé Anonymizer, qui permet, grâce à des darknets et des mixeurs, de cacher l'origine de la monnaie numérique concernée et de faciliter l'anonymat. Un mixeur permet d'obscurcir la chaîne transaction d'une blockchain en liant toutes les transactions en une même adresse, ce qui permet de les mélanger avant de les envoyer vers d'autres adresses. Donc de cette façon, il se peut qu'une organisation criminelle finance du terrorisme alors qu'elle voulait blanchir de l'argent, ou que des particuliers blanchissent de l'argent alors qu'ils voulaient acheter de la drogue en passant par le mixeur. L'utilisation de la crypto-monnaie lors d'actions illégales a principalement lieu sur le deep web. Les risques qu'apportent les cryptos résident dans le fait que la crypto-monnaie permet des financements ou donations anonymes et dont la trace peut être encore plus facilement camouflée sur le deep web. Dans le monde, il existe plusieurs organisations qui luttent contre les dangers financiers que les cryptos peuvent présenter. Je pense notamment au GAFI, le groupe d'action financière qui lutte contre le blanchissement d'argent et le financement du terrorisme.
Merci à vous trois d'avoir accepté cette interview. De ce que je comprends, il faut faire attention à comment on investit notre argent dans la crypto. This is a newsome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. Béatrice Reinders, bonjour. Vous êtes commissaire européenne pour la justice. Qu'est-ce que le RGPD et d'où vient-il ?
Alors bonjour, alors donc le RGPD, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit du règlement général pour la protection des données personnelles. Donc c'est un règlement, une sorte de loi donc, qui encadre le traitement des données personnelles en Union européenne. Il est en vigueur depuis le 25 mai 2018. D'où vient-il ? Il naît d'une nécessité d'adaptation de la loi aux nouvelles technologies et aux utilisations de celles-ci.
Quel est son but ?
Alors, le RGPD a trois buts principaux. Le premier est de renforcer le contrôle des citoyens sur leurs propres données, qu'ils sachent comment vont être utilisées leurs données personnelles. Ensuite, d'harmoniser les normes européennes et donc de créer un réseau de confiance entre les utilisateurs. C'est la CNIL, en France et dans les différents États de l'UE, qui veille au respect du RGPD.
Est-ce qu'il est efficace et est-ce qu'il a des limites ?
Alors oui, le RGPD est relativement efficace. De mai 2018 à mai 2019, les plaintes de violation de données sont passées de 3700 à 11900 en France, ce qui signifie que les gens prennent conscience de la gestion de leurs données et vont porter plainte. On enregistre au total 144 000 plaintes en Europe pour l'année 2019. Le RGPD met en place une réelle protection. Les entreprises doivent avoir un consentement écrit, clair et explicite des utilisateurs avant l'utilisation des données. De plus, il s'assure de l'aval des parents avant l'inscription des mineurs sur le réseau social, donc empêche relativement les mineurs de faire une mauvaise utilisation de leurs données personnelles. Enfin, quelque chose d'assez important, il y a le droit à l'oubli. Si par exemple vous avez une donnée personnelle qui est divulguée, vous avez le droit à ce qu'elle soit oubliée et donc à la faire supprimer et à ce qu'elle disparaisse d'Internet. Il y a toutefois des limites au RGPD qui sont souvent les utilisateurs eux-mêmes qui acceptent les cookies ou les conditions d'utilisation de certains sites Internet sans réellement savoir de quoi il s'agit.
Est-ce que c'est la seule protection possible ? Et est-ce que c'est la meilleure protection pour nos données ?
Alors, la seule protection possible, et est-ce la meilleure ? C'est une bonne protection, car elle permet des actions groupées au niveau européen. En janvier 2019, il y a par exemple eu une action contre Google qui devait être condamnée à payer 50 millions d'euros de dédommagement. Bon, il y a toutefois un recours actuellement devant le Conseil d'État. Mais donc, c'est une protection qui permet, via des actions groupées, de condamner les sites Internet qui ne respectent pas, ou les moteurs de recherche, comme c'est le cas pour Google, mais donc tout ce qui ne respecte pas ce RGPD. Pour une protection maximale des données personnelles, il y a toutefois des services privés que les utilisateurs peuvent utiliser, notamment des VPN, des réseaux privés virtuels, pour changer d'adresse IP, pour télécharger sans des attaques. Il y a des hackers, par exemple, qui peuvent bloquer les réseaux, et donc il existe des protections supplémentaires pour ceux qui le souhaitent.
Merci Béatrix pour ces informations. J'essaierai de lire les conditions d'utilisation maintenant quand j'irai sur Internet. J'espère que les auditeurs feront pareil.
This is a newsome feeling when you are so close.
Maintenant, parlons du fléau du 21e siècle, le téléchargement illégal. Je laisse maintenant la place à Evan, contrôleur général pour Adopi.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, depuis peu, les cinémas ont rouvert. Alors, quelle joie, quel bonheur. Ça fait depuis une éternité qu'on attendait cet événement. Actuellement, beaucoup de monde en profite. Je pense que depuis les 3 confinements qu'on a eu en France, beaucoup de citoyens ont consommé des films ou bien des séries sur des plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon Prime. Or, je pense que certains petits malins ont consommé des films sur d'autres plateformes de streaming illégales. Faites attention, Adopi vous surveille. Alors, Adopi, c'est quoi ? C'est tout simplement le diminutif de haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Donc, c'est une structure de l'État qui, comme son nom l'indique, protège les œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur. On a eu la chance d'avoir reçu l'extrait d'un enregistrement d'un dialogue entre un membre de la commission de protection des droits chez Adopi et un fraudeur au moment où le fraudeur s'est fait choper. On écoute.
Oui, mais monsieur Antoine, comprenez bien qu'Adopi est là pour vous protéger, pour vous sécuriser des virus ou bien encore des contenus pornographiques dans vos fichiers.
Mais ne vous voilez pas la face. Adopi n'est plus trop efficace devant les nouvelles technologies. L'obsolescence est bien visible. Vous ne savez même pas vous moderniser et vous prétendez être une haute autorité ?
Alors, sachez qu'on est là pour vous avertir que ce que vous faites n'est pas légal. Télécharger des films sur des plateformes illicites au lieu de vous payer un abonnement Netflix met mal l'industrie cinématographique. En téléchargeant, c'est de l'argent qui part dans le vent.
Vous savez ce qui part dans le vent aussi ? Grâce à DGEMC VPN, on peut consommer sur des sites leurs contenus disponibles sur les catalogues étrangers. Je peux accéder à des contenus qu'on n'a même pas en France. Donc, en quoi les artistes perdent-ils de l'argent ? Grâce à moi, je remplis les poches des artistes.
Bon, je m'en fiche des gens à l'étranger. Je vais me fixer sur la France pour que vous puissiez bien comprendre ce que je veux dire. Adopi défend la culture française. Et vous faites partie des 37% des Français à télécharger illégalement des films. Ou encore des musiques. À cause de vous, si je me concentre sur la musique, 4,6 milliards d'euros partent dans le vide. Vous dénigrez la France si vous êtes pour le téléchargement illégal.
Vous voulez parler de chiffres ? Alors on va parler de chiffres. À l'heure actuelle, la France a mis 82 millions d'euros dans Adopi, pour seulement 87 000 euros d'amende. C'est pas vraiment rentable. De plus, vous envoyez des pitoyables lettres qui ne servent qu'à encore plus déforester la forêt. Mais vous comptez faire quoi encore ? Vous comptez m'arrêter ?
Vous savez quoi ? Je vais mettre en place avec la commission d'Adopi une procédure en justice contre vous.
Comme vous venez de l'entendre, les différents arguments concernant Adopi sont avérés vrais. Adopi protège effectivement les utilisateurs de virus ou bien encore de contenu pornographique dans les fichiers, mais n'est plus rentable aujourd'hui et n'est pas moderne face aux technologies de notre époque. Donc à vous de voir si vous êtes pour ou contre, nuancez votre réflexion par rapport à Adopi justement. Pour ma part qui adore le cinéma, aller au cinéma, s'asseoir dans un siège, regarder un film sur grand écran avec une qualité de son exceptionnelle, c'est le pied. Je préfère mettre de l'argent pour aller voir un film ou bien de regarder des films sur Netflix, même si la sensation est moins folle, ou encore d'acheter des DVD pour soutenir l'industrie du cinéma. Bon, si vous n'avez pas d'argent et que vous voulez recevoir une lettre de chez Adopi, allez sur des sites illégaux. Mais faites gaffe, je vous aurais prévenu.
Bon, maintenant vous saurez que Adopi vous surveille, donc faites attention, hein.
This is a newsome feeling when you are so close.
Nous allons maintenant nous intéresser au FNT. Notre journaliste a pu rencontrer 2 propriétaires de FNT que nous aurons la chance d'entendre tout à l'heure. Alors, dites-nous, qu'est-ce que sont les FNT ?
Alors oui, bonjour à tous. En effet, j'ai pu rencontrer 2 personnes possédant des NFT. Ces dernières années, les NFT sont en forte expansion, mais peu savent réellement ce que c'est. Les NFT, pour tenter une explication, de l'anglais non-fungible token, sont des signatures numériques d'un objet virtuel garantissant son authenticité. Ils sont uniques, ne peuvent pas être remplacés, ils ne peuvent pas non plus être convertis. Autrement dit, pour faire simple, c'est un droit de propriété dans le domaine virtuel. Mais quels sont les avantages de posséder des NFT ? Eh bien, nous allons demander les avis de nos deux invités qui ont des objectifs bien différents dans un contexte virtuel bien différent. Madame Carr, nous vous écoutons.
Bonjour, je suis ravie d'être en votre compagnie. Je me présente, je suis la maman de Harry et Charlie Davis Carr. Nous avons publié la vidéo de Charlie en train de mordre le doigt de son frère pour garder un souvenir de ce moment que nous avons trouvé particulièrement drôle et pour la partager à notre famille. Elle a été visionnée plus de 900 millions de fois. Nous avons donc voulu en tirer profit pour nos enfants, acteurs de cette vidéo, et aussi pour financer leurs études. Nous l'avons donc mis aux enchères et, à notre grande surprise, elle s'est vendue pour la somme de 760 000 dollars. Nous étions vraiment très heureux et en aucun cas nous avons pensé à ramasser autant d'argent.
Merci à vous. Désormais, nous comprenons mieux ces nouveaux formats numériques et ces nouveaux droits de propriété. Monsieur Beeple, donnez-nous désormais votre avis, car au contraire de Madame Carr, créer des œuvres numériques est réellement votre métier. Nous vous écoutons.
Hello, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Beeple, artiste américain dans le numérique. Beeple n'est évidemment pas mon vrai prénom, je trouvais que ça faisait plus cool pour un nom d'artiste. En 2007, j'ai voulu me lancer un défi, donc c'est de créer pendant 5000 jours une œuvre chaque jour pour tout d'abord améliorer ma technique dans le numérique, dans les arts numériques, et aussi pour créer le projet de ma vie, donc assembler toutes ces œuvres. Et donc ça m'a pris 14 ans. Donc mon objectif final, c'était pas d'amasser un maximum d'argent, mais plutôt de faire une performance artistique et que le monde de l'art numérique se souvienne de moi. J'ai donc créé cette œuvre, puis je l'ai mise aux enchères, mais comme toutes mes œuvres précédentes, pas dans l'objectif d'amasser vraiment beaucoup d'argent. Et vraiment, à ma grande surprise, elle s'est vendue 69,3 millions de dollars. J'étais vraiment surpris et j'étais vraiment choquée de l'engouement qu'elle a provoqué chez tous les enchérisseurs. Donc mon but en créant toutes mes œuvres, c'était avant tout de me faire plaisir en faisant ce que j'aime et non pas de faire un maximum d'argent.
Merci à vous pour ces deux illustrations qui, si elles utilisent le même moyen juridique, n'ont pas les mêmes objectifs. L'un plutôt économique et l'autre plutôt artistique. Nous vous invitons bien sûr à regarder sur le site internet de notre radio les différentes œuvres dont nous avons parlé aujourd'hui, qui seront bien évidemment partagées. Merci à vous.
Merci à tous les intervenants et les chroniqueurs pour leurs interventions et à tous nos auditeurs pour leurs écoutes. On se retrouve demain pour une nouvelle chronique quotidienne.